Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay! Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Le doute, ça évoque quand même quelque chose de brinque-ballant. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est le socle de tout. Des décisions que je prends, des décisions que je mets beaucoup de temps à prendre, du coup. Faut que je me méfie aussi, parce que comme je suis quelqu'un de très paresseux, faut pas que je mélange le doute et la paresse, parce que des fois, j'invente des excuses de doute pour cacher la flemme, en fait, tu vois. Genre, attends, on va pas le faire tout de suite. Non, mais allez, lève-toi et bouge-toi maintenant et fais le truc, au lieu de faire croire, parce que t'as des questionnements philosophiques sur le truc.
Thomas VDB, c'est clairement le pote dont tout le monde rêve, parce que non seulement il est très rigolo, mais en plus ses playlists sont vachement mieux que les vôtres. On le connaît aujourd'hui pour ses spectacles et ses chroniques France Inter dans Par Jupiter, mais il est passé par 1000 autres projets avant, des vidéos avec Mathieu Madénian, 12 ans de radio, des films, des podcasts et pas mal de temps dans le journalisme musical. En attendant la reprise de son nouveau spectacle Thomas VDB s'acclimate, qui a été mis en pause après seulement 12 représentations pour cause de petite pandémie mondiale, on s'est posé tous les deux pour discuter de pas mal de choses, de musique, de Queen, de Sparks, du petit côté snob de Thomas, genre ouais, je les écoutais avant qu'ils soient connus et tout, de quand il a mis toutes ses angoisses de la mort et du néant de côté, de comment il est passé de journaliste musical à comédien, de sa peur de faire des choix parce qu'il y a tellement de réponses possibles à chaque question, du fait que tout le monde ait une vision différente du bien commun et que c'est ce qui fait que chacun a une raison de penser ce qu'il pense, de son nouveau spectacle évidemment et de l'impact du Covid sur absolument tout ce que les artistes font. J'espère que ça vous plaira.
Ah, t'es en train de lire le livre d'Alexis ?
Je l'ai pas encore commencé.
Non, je l'ai reçu, mais j'ai pas commencé non plus. J'ai trop de potes qui écrivent des livres.
Ah ouais ?
C'est un peu relou, quoi.
Non, mais... Et toi, t'en écris un aussi, là, non ?
Ouais. Je suis en train de le terminer. Je suis en train de le terminer. T'enregistres ?
Oui, ça. Mais si okay. Tu me dis en cut, en cut.
Non, vas-y. Je suis en train de le terminer, mais je l'ai commencé il y a 3 ans. Donc en fait, j'ai bossé à fond dessus il y a 3 ans. Puis ensuite, j'ai arrêté parce que je suis reparti sur ma tournée du précédent spectacle. Puis j'ai fait un peu des pauses comme ça avant de m'y remettre pour de bon. Et là, j'ai essayé de le terminer au premier confinement. Et là, du coup, je fais des dernières retouches. Mais donc, il devrait sortir cette année normalement.
Et c'est sur la musique ?
C'est sur la musique. C'est sur comment. En fait, c'est pas du tout parce que j'ai été journaliste dans la musique il y a longtemps, donc en fait souvent les gens me considèrent un peu comme un spécialiste de musique et tout. Et en fait, je veux pas.
Vernon Subutex qui a réussi.
Ouais. Ouais, qui a réussi. Enfin que non, mais même pas parce qu'en fait les gens étaient là, ah, t'étais journaliste de musique et tout. Mais en fait, moi dans ma tête, j'étais juste fan de musique qui cherchait le moyen de ne pas travailler et de continuer à écouter de la musique. Et de rester chez lui et tout. Et en fait, j'ai trouvé ce job de journaliste dans la musique qui était, donc voilà, fallait que j'aille interviewer les groupes, ce qui était pas le pire métier. Donc je voyageais et tout pour aller les interviewer. Mais je me suis jamais vraiment considéré comme un journaliste, quoi. Tu vois, pour moi, c'était un fan qui a réussi à gagner sa vie avec ça, quoi. Et du coup, mais en fait, du coup, le livre, il parle pas tant de musique que la façon que la musique a eu d'influencer ma vie. Et comment, par exemple, j'ai cru que c'était de bon augure de mettre des pantalons larges quand j'avais 15 ans, parce que je commençais à écouter Rage Against the Machine, et que du coup, au fond de moi, j'étais là, mais en fait, je viens un peu du hip-hop, moi, à la base. Et donc, du coup, et en fait, c'est comment la musique a influencé ma personnalité, comment elle a influencé ma façon de m'habiller aussi, par exemple. Et donc... Donc ça, c'est pas un livre de conseils musicaux, genre écoutez ci, écoutez ça. Je parle de groupes pas forcément connus, qu'il y a pas besoin de connaître pour comprendre de quoi je parle, parce qu'en fait je parle tout simplement de moi qui essaie d'avoir une coupe de cheveux qui ressemble à celle de son chanteur préféré quand il a 17 ans, alors que j'ai pas du tout la même texture de cheveux, donc je les ai laissés pousser, mais c'était hyper moche. Et donc voilà, donc ça parle beaucoup de tout ça, quoi. Donc c'est un livre que je veux drôle, évidemment, quoi.
Et aujourd'hui, c'est encore une grosse influence sur ta vie?
Plus du tout. Je pense que ma personnalité est assez figée, je sais pas, mais je pense en plus que quand j'avais 17 ans, en tout cas, c'est sûr. Mais la musique est vraiment omniprésente dans ma vie, comme si j'étais encore un ado, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je continue d'entretenir un rapport avec la musique qui est exactement le même rapport que j'avais quand j'étais... En fait, je continue à chercher, à essayer de retrouver la magie de la première fois quand t'es ado et que tu vois, t'as l'impression qu'un album ou un morceau change ta vie. En fait, je ne suis... le fan de musique qui est en moi n'est qu'à la recherche de musiques qui peuvent potentiellement me donner l'impression qu'elles changent ma vie, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais quand je deviens accro à un disque, vraiment, je l'écoute, il fait partie de ma vie pendant des mois, des années, quoi. Et donc, je continue d'avoir un petit peu ce côté fan. En fait, je cherche le fan qui est en moi. En fait, est toujours en quête de musique qui vraiment me. Parce que quand j'écoute de la musique, je fais rien d'autre, quoi. Tu vois, c'est vraiment une activité à plein temps que je passe énormément de temps à écouter de la musique, en fait.
Et t'arrives encore beaucoup à trouver des albums comme ça qui te font dire ça a changé ma vie.
Ouais, même si en fait les raisons pour lesquelles je veux croire que ces disques changent ma vie ne sont pas que musicales en fait, parce qu'en fait je me rends compte que admettons qu'il y a un groupe qui devienne hyper connu en faisant un album, alors je sais pas, alors par exemple j'adore Arcade Fire par exemple, donc j'ai adoré Arcade Fire depuis le premier album. Et puis, très vite, dans le sillon de la sortie d'Arcade Fire, il y a d'autres groupes beaucoup moins connus qui sont apparus. Et donc, ils faisaient des albums tout aussi bien. Et donc, du coup, je me rends compte des fois que je préfère écouter des albums de groupes qui font des trucs un peu à l'Arcade Fire, mais beaucoup moins connus. Tu vois, quelque part, il y a le truc un peu élitiste, connard, de se dire, ah ouais, bah, si t'aimes Arcade Fire, bah, écoute ça, tu vas adorer, parce que c'est mieux. Et donc, comme j'ai l'impression de connaître des trucs que les autres ne connaissent pas, c'est vraiment un truc snob et élitiste. Donc il y a un petit plaisir un peu mesquin à écouter des trucs que personne ne connaît, je pense.
Et est-ce que du coup t'es un semi-vénère quand ils deviennent connus?
Ça dépend des fois. Quand Queen, donc parce que je suis un fan de Queen. Ouais. Enfin, ça a été vraiment un socle pour moi, la musique de Queen, parce que c'est ce par quoi là, ça a commencé, la passion pour la musique. Quand Freddie Mercury est mort et que tout le monde s'est mis à écouter Queen à l'époque, enfin alors que du coup là, Queen avait déjà 20 ans de carrière derrière. J'étais là, mais bon, j'écoutais bien avant qu'il soit mort. Et donc du coup, donc j'ai eu ce truc un peu comme ça. Mais et donc maintenant, par exemple, je suis fan total d'un groupe canadien qui s'appelle The New Pornographers, qui est très peu connu. Je pense que s'il devenait très connu, c'est possible que. Alors qu'en fait, je fais tout pour qu'il soit connu. J'en parle sur les réseaux. J'ai putain, écoutez ce groupe, il est génial et tout.
Heureusement que t'as pas d'influence.
Oui, exactement. ouais, c'est vrai. Mais donc du coup, je suis toujours content quand quelqu'un me dit ouais, j'ai écouté, je trouve ça génial. Mais s'il devenait hyper connu, probablement qu'effectivement, je commencerai à les snober.
Et t'essayes de lutter contre ce comportement un peu con ou juste t'acceptes c'est le petit.
Allez. Non, mais en fait, c'est pas. J'ai plus beaucoup d'occasions de réagir comme ça quand même depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a pas. En fait, j'écoute. C'est peut-être la raison pour laquelle j'écoute beaucoup de groupes très peu connus. Parce qu'en fait, je me rends compte il y a aucune chance qu'ils deviennent connus.
Voilà,
ouais, un truc un peu comme ça.
Ouais, donc en gros, si Thomas VDB aime votre groupe, c'est que vous percerez jamais.
C'est un peu ouais, possible.
Et Queen, tu les mets où sur l'échelle de Sparks?
Alors c'est fou parce qu'en fait Queen et Sparks, en fait, donc j'ai été fan de Queen depuis que j'étais enfant quasiment, et en fait j'ai découvert très tardivement dans ma vie, donc en 2005, les Sparks, que je connaissais un petit peu pour un ou deux morceaux avant, mais je sortais d'une rupture amoureuse et j'étais déprimé, je venais de m'engueuler avec mon ex et j'avais des places pour aller au concert de Sparks. Je savais que c'était censé me plaire et je suis allé juste après cette engueulade avec une meuf au concert à l'Élysée Montmartre de Sparks, et ça vraiment, mais c'est le s'il y a un concert dans ma vie qui a changé ma vie, c'est celui-là. Je me suis dit, j'étais en train de regarder ce concert, je me suis dit, mais comment je n'étais pas au courant que ça existait avant, que c'était aussi génialissime. Et donc je suis rentré chez moi le soir, dans la nuit j'ai téléchargé tous les albums, et pendant 3 ans je n'ai quasiment écouté exclusivement que ça, sachant qu'il y avait 20 albums derrière, donc en fait il y avait plein de trucs à écouter. Et en fait, je me suis rendu compte que dans un style musical qui était pas si éloigné de celui de Queen, Sparks faisait un truc qui transcendait un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté moins... pour plein de gens, les fans de Sparks comparent Queen en disant « Ouais, c'est un gros gâteau, pièce montée. Les Sparks, c'est de la cuisine hyper fine. » Et c'est vrai qu'il y a un côté... En fait, là, quand j'ai découvert les Sparks, je me suis dit, en fait, je crois que c'est la musique que je rêvais d'entendre depuis toujours sans le savoir. Et en fait, il y a des gens qui l'ont fait, en fait. Donc je l'aimais, mais en fait ces deux groupes ont toujours été comparés, toujours de depuis, parce qu'en fait ils ont existé en même temps en fait, et donc Queen a un petit peu volé le succès de Sparks, dans le sens où Bohemian Rhapsody a supplanté complètement le succès que les Sparks pouvaient éventuellement obtenir en Angleterre dans les années 70, et en fait donc Sparks n'a jamais eu le succès commercial que Queen a eu, Et je pense que je encore une fois ce côté ah vous savez pas mais en fait c'est mieux Queen en fait tu vois prendre le dessus chez moi quoi.
Et
c'est vraiment par exemple tu vois le comparer ces deux groupes en fait la découverte de Sparks pour moi était vraiment un truc qui m'a bouleversé parce que je me suis dit mais ça change le sens de tout ce que je sais dans la vie en fait parce que je croyais que Queen c'était le truc le mieux et en fait je j'ai l'impression d'avoir trouvé le truc vraiment idoine, enfin tu vois la musique vraiment qui me ressemble le plus en découvrant ce truc. Donc en fait c'est fou de découvrir le groupe qui change ta vie quand t'as 25 ans en fait.
Mais qu'est-ce qui t'a touché pendant ce concert? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ce sera plus pareil?
En fait tous mes potes me disent beaucoup qu'en fait les musiques que j'écoute font penser au Fraggle Rock. Enfin j'ai un pote qui me dit mais toi en fait tu aimes la musique Fraggle Rock. T'aimes bien quand il y a des chœurs qui font... Donc j'aime les musiques joyeuses, pop joyeuses, pas forcément comiques parce que les Sparks les textes sont comiques, les textes sont génialissimes. Mais ce qui m'a plu c'est le côté tout simplement la musique en fait. C'est-à-dire que le côté chaud, le côté spectaculaire, les Sparks sont des mecs qui ont quand même 70 ans aujourd'hui, et de voir deux mecs de 70 ans faire de la musique qui séduit un mec qui a 25 ans et qui les voit pour la première fois de sa vie, j'avais l'impression de voir de découvrir des génies, tu vois, que j'ignorais jusque-là, quoi. Et donc, en fait, tous les morceaux me séduisaient, quoi. Et en fait, en concert, quand tu regardes un concert dans lequel il y a 20 morceaux et qu'à chaque morceau, tu te dis, mais c'est incroyable, ce truc, tu te dis, je suis passé à côté de quelque chose, quoi.
Est-ce qu'il y a un truc d'intemporalité dans ce que toi, t'essayes de faire?
En tout cas, c'est certainement pas ce que j'essaye d'atteindre, parce que je réfléchis jamais quand ce que j'essaye de faire, donc ce que je dans mon travail, dans ce que j'écris, dans ce que j'essaie de dire.
Dans tes blagues, notamment.
Dans mes blagues. Non, je pense pas du tout à la question de l'intemporalité. Et je pense que ce serait... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà réussi, s'il y a quelqu'un dont on aime la carrière, qui, à chaque fois qu'il écrivait et tout, il se disait « Bon, il faut que je fasse un truc intemporel. » Enfin, en fait, on essaye d'abord d'être sincère, on essaye d'abord de se faire rire nous-mêmes. Avec nos blagues, je pense. Enfin, tu vois, pour moi, je valide une blague. Tu vois, je vais avoir la confiance pour la faire si d'abord je me suis fait rire en la trouvant. Je pense pas du tout à la notion d'intemporalité. Et par exemple, quand j'étais gamin, le premier truc qui m'a fait vraiment rire en humour un peu francophone, c'est les livres de Desproges. Et vraiment, quand j'ai découvert Desproges, ça a été vraiment une claque pour moi. Quand j'étais ado, j'ai découvert ces livres, je pleurais de rire. Et je les ai relus un petit peu récemment et je me suis rendu compte que ça me faisait moins marrer que quand je les avais découverts. Donc évidemment, j'étais défloré parce que je revenais sur un truc que je connaissais déjà. Et je me disais, ah peut-être que... C'est honteux de dire ça parce qu'en fait, j'admire Desproges de toujours. Mais je me disais, peut-être qu'il y a un côté un peu connard en moi qui s'est dit, ah c'est un peu vieilli, tu vois. Alors du coup, je me dis, en fait, tu choisis pas d'être intemporel ou non. Tu fais ce que tu... Tu fais du mieux que tu peux pour essayer d'être le plus sincère et d'essayer de comprendre l'époque, en fait. En fait, parce que je pense que les blagues qu'on fait, elles nous aident à essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, à essayer de comprendre, l'époque. Et du coup, je pense que nos blagues résonnent un certain temps. C'est pour ça qu'il y a des blagues qui sont dans l'air du temps. Tu vois, des fois, on dit « Ah, cette blague, j'avais fait avant toi. » Mais en fait, des fois, il y a des blagues, il y a des sujets qui sont tellement dans l'actualité, qui sont tellement dans les conversations, que deux personnes ou deux comédiens ou deux comiques peuvent avoir la même idée de blague au même moment. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est dur d'être intemporel. Et je pense que ce qu'on fait correspond à une époque, à une temporalité précise.
Mais c'est vrai que là, en fait, je m'étais jamais posé la question avant de te la poser. Mais c'est vrai que dans l'humour, je saurais pas citer quelqu'un que je trouve qui... Genre, Seinfeld, tout le monde est... Moi, je trouve ça chiant parce que c'est pas mon époque, je suis pas le public, c'est pas le genre d'humour que j'aime. Là où, sur papier, vraiment dans l'écriture, je pense que c'est plus simple. Genre, je relis des trucs de Woody Allen, je sais plus, Dieu, Shakespeare et moi, ou des trucs absurdes. Je trouve ça hilarant. Mais c'est parce que c'est de l'écrit. Mais sur scène, je saurais pas dire... un artiste.
Mais ça, quand tu dis Seinfeld, tu parles de la série ou de lui sur scène?
Les
ou
deux.
De... Ouais.
Les deux, je trouve ça...
Mais c'est marrant parce que Seinfeld, moi, en fait, je suis un peu comme toi. En fait, moi, je suis fanatique de Larry David et de Curb Your Enthusiasm. Donc, la série de son co-auteur, qu'il a fait après, qui du coup est nettement plus moderne dans le concept, c'est-à-dire qu'il y a pas les, c'est pas enregistré sur un plateau avec un public et donc t'entends pas les rires, les faux rires de soap opéra un peu quoi, fin de sitcom. Non, je sais pas si ça. En fait, je croyais que je mettais pas Seinfeld et je l'ai vu sur scène et en fait, il m'a quand même bien scotché. Je me suis vraiment marré alors que je pensais, je vais pas dire que j'y allais reculons, mais je me disais, oh, je vais voir du Seinfeld. Et en fait, il met toutes les blagues m'ont fait marrer quoi. Mais
et tu l'as vu quand, genre?
Je l'ai vu en 2012. J'ai une copine qui m'avait emmené le voir en Angleterre. Mmh. Et j'avais vraiment trouvé ça génial, quoi. Et pourtant, c'était genre au Zénith, enfin, tu vois, dans un aréna énorme avec des milliers de gens. Ce qui est pas du tout l'endroit approprié pour voir un spectacle de stand-up, je trouve.
Ouais.
Je sais pas, par exemple, tu vois, on parle de ça, mais Louis de Funès, moi j'ai adoré Louis de Funès quand j'étais enfant. Là, je le montre à mon fils et ça marche pareil sur moi en fait. Donc je me rends compte que et il voulait certainement pas être intemporel. Enfin, je sais pas si tu penses pas à laisser une empreinte quand tu fais des blagues, quoi. Tu laisses t'essayer d'être le plus sincère possible. Voilà, je sais pas
mais
si.
Mais t'as pas cette angoisse d'essayer d'exister, de trouver une façon d'exister. Enfin, tu vois, bon, ça a ramené un principe de peur de la mort et tu vois, d'essayer de marquer quelque chose, t'as pas ça?
Alors, non, j'avoue qu'en fait, j'ai rangé vraiment tous ces trucs-là dans une boîte dans ma tête parce que disons qu'il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu quelques petites crises d'angoisse qui étaient liées à cette peur de la mort, qui étaient liées à la peur du néant, qui étaient liées à. Au sens qu'on. Enfin, au côté extrêmement vain de tout ce qu'on fait, en fait. Je me disais, mais à quoi ça sert de faire une chose, puisque de toute façon, on va mourir. Et donc, à un moment, j'ai mis toutes ces questions-là, je les ai mises dans ma boîte, dans une boîte, et puis, en fait, je me dis, parce qu'en
comment t'as fait ça?
Mais parce que, sinon, tu ne vis tout simplement pas. Tu peux. Rien, là, la conversation qu'on est en train d'avoir, elle n'a aucun intérêt. En fait, on pourrait couper le micro, puisqu'on va dire, de toute façon, on va mourir. Donc, même les gens qui vont l'écouter vont mourir aussi. Donc on s'en rappellera pas. Donc en fait c'est un peu vaniteux que de vouloir penser à la postérité de tes blagues en fait. Tu vois, donc je ne pense vraiment absolument pas du tout à ça quand j'écris. Et puis je fais là pour le moment je fais des spectacles et puis je fais des sketchs qui sont sur internet. Donc en réalité, même les blagues que je fais, enfin tu vois sur internet, il va encore si tu prends les dans les 40 prochaines années, il y a encore des milliers, des millions de mecs qui vont faire des blagues sur internet, mes blagues à moi vont être perdues dans les limbes des blagues d'internet. Donc non, je j'arrive pas à essayer de me dire putain, ce serait cool si cette chronique elle atteint au moins 1 million de vues en 2040 quoi, ce serait cool. Enfin tu vois, je pense pas à ça. Et d'une façon générale, je crains malheureusement si je regarde la vérité en face, je sais que je suis pas quelqu'un d'assez appliqué sur tout ce que je fais.
C'est-à-dire t'aimes bien ne pas travailler?
Ah, je... Ben, encore une fois, je te dis, le premier métier que j'ai choisi, je l'ai choisi pour ne pas travailler. Là, je me suis rendu compte que comédien, c'est quelque chose que j'arrivais à faire. Donc je me suis dit, ah, j'arrive à le faire, je vais le faire. Parce qu'en fait, sinon, ben, pour tous les autres métiers, il faut savoir conduire, j'ai pas le permis. Il faut savoir servir de ses mains, je ne sais rien faire de mes mains. Donc enfin tu vois, donc j'ai fait la fac d'anglais il y a 20 ans pour faire plaisir à mes parents, mais je me disais mais qu'est-ce que je vais foutre si j'ai un doc d'anglais, je vais être traducteur ou prof d'anglais. Donc en fait, je voyais pas quoi faire. Donc je me suis dit voilà, je vais être journaliste de musique et puis ensuite je me suis dit je vais être comédien. Mais en fait, non, c'est pas que j'aime bien ne pas travailler, j'adore ne rien faire. Je sais que tu as parlé de ça avec Navo il y a pas longtemps, on partage énormément ça avec Navo. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vécu des réunions de travail avec Navo, où on s'est retrouvé, d'ailleurs toi aussi, avec Aymeric Lompré, à l'occasion de l'écriture d'un gala, mais d'une soirée noire qu'on faisait à l'Européen. Et en fait, on se retrouve tous les quatre autour d'une table. Et en fait, moi, mon travail, d'abord, les premiers trucs que je fais pendant une réunion consistent à ne pas parler de travail ou à repousser le moment où on va parler de travail. Au moment, il y en a un qui tape dans les mains en disant « Bon, on s'y met ?» Et là, je suis « Oh non, la réunion commence !» Ça, j'ai une phobie vraiment des réunions de travail, en fait. Alors qu'en réalité, j'aime pas être en face des problèmes et devoir me prendre la tête pour essayer de réfléchir à des problèmes dont j'arrive pas à m'extirper, quoi. Donc, j'ai l'impression que... Parce qu'en fait, devant chaque question, je suis là, mais il y a tellement de réponses possibles. C'est marrant parce qu'on est dans un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent. Moi, je suis quand même un gros douteur de tout. Et donc, du coup, et je me retrouve des fois à me dire pourquoi ça plutôt qu'un autre. J'ai le même problème avec les livres. En fait, je te dis, j'ai plein de potes qui écrivent des livres et qui me les envoient. j'ai ce problème-là, parce qu'en fait, je commence à lire le livre d'un pote, et j'ai le livre d'un autre pote à côté, et je me dis, putain, mais pourquoi je lis celui-là, alors que je pourrais très bien lire celui-là? Et puis, il y a ce livre là-haut, là, qui est un classique, dont on me parle depuis des années, que j'ai jamais lu, je pourrais très bien le lire aussi. Et en fait, c'est le temps que je perds à essayer de me poser des questions, de me dire qu'ils ne servent à rien, c'est du temps que je ne passe pas à lire, en tout cas. Et donc, et c'est un peu le même truc dans le travail. Dans le travail, je sais pas toujours de quoi je veux parler, tu vois, j'ai ce problème-là en allant à la radio. Chaque semaine quand on va à la radio on se dit ah, tiens demain par exemple des fois t'es le dimanche soir tu dois faire une chronique le lundi, tu te dis je sais pas de quoi je vais parler, par contre je sais que demain quand il sera 17h10 il faudra que je sois marrant à la radio, par contre là j'ai aucune idée de truc drôle qui me vient quoi. Donc des fois c'est pour ça je te disais que ça m'arrive de ne pas être appliqué parce que je sais aussi que on propose des fois des trucs auxquels je ne sais pas dire non et je me retrouve en face d'un truc que je dois faire et je me dis ah de la merde je le bâcle. Et donc voilà et donc.
Mais pourquoi tu dis pas non?
Parce que j'ai l'impression qu'on va plus me rappeler après je pense tu vois.
T'as peur de ça?
En fait j'y pense pas mais je pense que c'est un peu figé en moi un peu, il y a un truc un peu de et puis j'ai peur qu'on se dise ouais VDB il fait son snob il veut pas enfin tu vois il se la raconte il veut pas venir dans mon truc. Il y a un truc un peu comme ça. J'ai peur aussi quand même de laisser une mauvaise image aux gens, quand même. En fait, j'aimerais croire que je suis pas comme ça. Et moi, j'ai rien à foutre de ce que se penchent les gens. Je fais ce que j'ai envie de faire et tout. Mais en fait, s'il y a des mecs qui sont là, putain, VDB, c'est à moi. Alors non, enfin, je veux dire, oui, il y a forcément toujours des remarques qui peuvent te blesser. Enfin, en fait, en réalité, je sais pas si c'est intéressant de penser à ça, mais des fois, je me dis, mais que peuvent bien dire les gens, de moi, tu vois, quand je suis pas là? Enfin, tu vois, même comment mes potes parlent de moi quand je suis pas là? C'est un truc que je me dis des fois.
Et tu penses qu'ils pensent quoi?
Non, je pense pas qu'ils disent des saloperies, mais c'est marrant d'être un sujet de conversation.
Mais même en bien, tu penses qu'ils disent quoi de toi?
J'aimerais bien savoir, par exemple, comment ils parlent de mes problèmes entre eux. Ah, putain, Tom, t'as vu, machin et tout. Parce que moi, en fait, quand je suis avec un pote et qu'on parle d'un autre pote, on parle de, ah, t'as vu, putain, Nico, c'est galère pour lui, avec sa meuf et tout en ce moment. Et on en parle avec bienveillance et tout ça. Mais en fait, du coup, c'est un peu fantasmagorique. Ça n'a aucun intérêt de se poser ces questions-là. Mais des fois, je me dis, tiens, comment je suis le sujet de conversation de mes potes, des fois? Est-ce que des fois, ils parlent d'un sketch qu'ils ont vu de moi à la radio? Parce que moi, mes potes ne me parlent absolument pas de mon boulot. Jamais mes super potes, tu vois, mes super potes, jamais. Alors peut-être qu'ils regardent mes chroniques ou des trucs comme ça de temps en temps, mais jamais ils m'en parlent.
Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent ou?
Parce que, en fait, moi, je leur parle pas de leur boulot. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, moi, c'est mon boulot. Et en fait, je sais que, mes potes, je pense que si c'est mes potes, c'est que je les fais marrer et eux, ils me font marrer. Ils ont pas besoin d'aller voir le travail que je fais en plus pour essayer de faire marrer des gens. Enfin, tu vois, si c'est mes potes, c'est qu'ils savent que le moment qu'on va passer ensemble, je vais tout faire pour les faire marrer et eux me faire marrer. Mais du coup, je me dis, tiens, peut-être que des fois, je me pose la question de me dire, ouais, comment ils parlent de moi? Comment ils parlent de moi quand je suis pas là? Comment je suis le sujet de leur conversation? Mais ça n'a aucun intérêt. Hein. Et donc, du coup, ça, par extension, des fois, tu te dis, comment des gens qui te voient à la radio parlent de toi? Comment ils disent, quel mal ils disent de toi? Enfin, tu vois, comment ils disent du mal de toi? Mais j'aime bien, forcément, enfin, je sais pas si toi, tu vas lire les commentaires sur tes chroniques sur Internet et tout. Mais t'as évidemment remarqué que, des fois, quand t'as un mec qui poste une chronique ou un sketch, t'as 200 commentaires de gens qui disent du bien.
Ouais.
Et le mec ne répond à personne. Et puis, il y a un seul mec qui dit du mal. Et là, le mec, il répond, il dit, ouais, bah, attends, quoi. Et après, donc, tu vois que tout le monde est piqué au vif dès qu'il y a un commentaire négatif.
Oui, ou alors, c'est juste que t'essayes de montrer que tu t'en fous en lui répondant une blague, quoi.
Ouais,
si
voilà.
Genre, regardez, en fait, déjà, j'ai le contrôle quand même.
Alors que si tu lui réponds, en fait, oui. Je pense que clairement, t'as été piqué, quoi.
Mais t'as des angoisses vis-à-vis de ça, de ce que les gens pensent de toi, que ce soit tes potes ou le public, entre guillemets?
Disons que le public, je peux plus m'en préoccuper aujourd'hui parce qu'en réalité, ça fait quand même pas mal de temps que je fais ce boulot. Et en fait, j'ai fait des trucs dont je suis très fier. Et j'ai fait des trucs où je me dis, ah, si ça pouvait disparaître de la mémoire des gens, bah, des trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, des sketchs foireux, des chroniques miteuses sur Internet, j'en ai fait. Par exemple, j'ai fait une chronique il y a 2 ans, 3 ans. Une semaine plus tôt sur l'antenne d'Inter, Juliette Arnaud, avec qui je fais l'émission, avait dit, ouais, j'adore PNL, elle avait parlé du groupe PNL. Et moi, j'avais dit, ouais, c'est nul PNL. Bah, aucun intérêt. Et en fait, je découvre, en fait, parce que j'avais cru entendre PNL un peu comme ça. Et puis, en fait, un mois après, je me mets à écouter, tu vois, j'écoute un peu PNL, je vais me dire, je vais vraiment écouter. Puis, en fait, je me dis, putain, en fait, c'est, je trouve ça hyper bien, PNL. Et je crois avoir un sujet de chronique dans juste ce que je viens de te raconter. C'est-à-dire, je me dis, ah, en fait, je m'excuse, j'ai dit du mal de PNL. Et en fait, je trouve ça génial. En fait, ça n'intéresse personne. Enfin, tu vois, tout le monde s'en fout de voir que j'ai changé d'avis sur PNL.
Ouais, ça dépend si tu parles vraiment de ça ou du fait d'avoir un avis et qu'au final, si tu t'es juste basé sur,
Ouais, c'était sur un a priori, et que ouais, c'était facile de faire la blague, de foutre de la gueule de PNL, puisqu'ils ont de l'autotune, n'importe quoi. Mais elle était pas brillante, cette chronique. Enfin, tu vois, elle était pas brillante, je veux dire, sachant qu'on essaye tous de l'être quand ouais, on écrit un truc, tu vois. On essaie de faire au mieux. Voilà, j'étais un peu passé à côté. Mais même des trucs, tu vois, des gens qui m'ont vu sur scène faire des trucs que j'avais complètement foiré, quoi, tu vois, des présentations, des gens, une fête de la musique il y a des années, on me dit en fait il faut que je présente au château de Vincennes la fête de la musique, et donc et c'est en plein air, et en fait au moment où je dois monter sur scène entre les groupes, je me dis mais là il y a 5000 personnes qui parlent entre elles, genre, et je monte sur scène pour leur parler, et genre la moitié des gens qui en avaient rien à foutre,
mais
et
là, les c'est autres, pas toi, c'est les circonstances.
Ouais, c'est les circonstances, mais du coup tu crées très facilement une opportunité pour 5000 personnes de te détester parce que t'es le relou au micro qui vient parler entre les concerts. Ouais. Et donc du coup des trucs où je me dis mais j'aurais jamais dû faire ça. Et parce que je l'ai fait, je me dis forcément il y a des milliers de gens qui se disent ah peut-être VDB, je l'ai vu faire un truc bien et tout. Par contre, je l'ai vu faire des trucs franchement bien nulos quoi. Donc je sais que forcément j'ai pas eu assez d'applications dans tout ce que j'ai fait pour être un mec qui a fait que des trucs super quoi, tu vois. Je pense qu'il y a forcément plein de gens qui ont eu des trucs de merde que j'ai fait, et donc j'accepte aussi ça. Je me dis je vais un peu cas dans mon chemin, alors j'essaie de faire au mieux, donc j'essaie de dire non le plus en plus souvent pour éviter l'écueil de me mettre dans une situation où je vais me taper un bide, mais j'y arrive encore pas systématiquement.
Mais genre avec le style souvent assez absurde et tout, surtout au début, il y a des gens qui devaient pas te comprendre et se demander ce qui se passait, non? Les trucs quand tu faisais le teubé avec Mathieu Madénian.
Oui, en fait, je pense que beaucoup de gens ont dû se dire, beaucoup de gens peut-être qui aimaient ce que je faisais avant, et que d'un seul coup, quand j'ai basculé dans le duo avec Madénian, c'était presque du cartoon qu'on faisait avec Madénian sur l'actualité, quoi. C'était un espèce de duo qui n'existe pas dans la vie, parce qu'on se disait, mais c'est qui ces deux mecs? Pourquoi ils sont toujours ensemble? Et surtout, pourquoi prenais-je une voix pareille? Parce qu'en fait, selon les vidéos qu'on a fait avec Mathieu, il y a plein de textes qu'on a fait et de phases de jeu que je trouve vraiment écroulante, des trucs, on s'est vraiment marré à faire ce truc-là. Mais il y a plein de vidéos que je n'arrive plus à regarder aujourd'hui, parce que je me dis, mais non, je prenais encore cette voix épouvantable, parce qu'en fait, des fois, j'avais l'impression que c'était hyper drôle. Je parlais avec un mot comme ça. Il y a des fois, je parlais comme ça, quoi. Et donc, je me disais, mais, et il y a plein de gens qui adoraient, je me disais, putain, c'est vraiment des goûts bizarres, ces gens, parce qu'en fait, parce que je me dis, en fait, c'était trop loin de moi, quoi. Et donc, il y a plein de potes, moi, qui m'ont dit, ouais, c'est bien. Il y a plein de potes qui adoraient ce que je faisais avec Madénian. Puis, il y en avait d'autres qui me disaient, ouais, c'est bizarre, le perso que tu fais. Et donc, évidemment, moi, je regarde ça 4 ans après. Je dis, mais évidemment que c'était bizarre. Évidemment que c'était bizarre.
Mais aujourd'hui, dans ce que tu fais, tu considères toujours ça comme un perso ou tu y vas en mode, hey?
Il y a quand même, j'ai l'impression d'avoir trouvé, en fait, en réalité, je pense que mon personnage, ça fait un peu prétentieux de dire mon personnage, mais je pense que j'ai trouvé une sorte de personnage qui est tout simplement celui qui a quelqu'un qui est d'avoir confiance dans ce que je dis, d'avoir confiance en ma sincérité. C'est-à-dire, même si je parle d'un sujet pour dire, je vais vous parler d'un sujet auquel je ne comprends rien, ça veut pas dire que c'est le contraire de dire aux gens, je vais vous parler d'un sujet, je vais vous l'expliquer, d'accord? C'est différent de se montrer sous un jour un peu, je vais pas dire teubé, mais naïf, de dire j'ai essayé de m'en parler de ce sujet parce que je n'y comprends rien du tout. Et je pense que c'est plus j'allais dire sympathique, mais je pense que au moins plus honnête pour les gens de dire voilà, ok, je vous parle de ça, alors j'ai peut-être rien compris, mais je vais vous dire ce que j'ai compris. J'ai pas compris grand chose, mais je vais vous dire ce que j'ai compris. Et donc quelque part donc je pense que je suis en confiance maintenant avec le fait de dire je comprends rien, mais je vais juste vous dire ce que j'ai compris. Et du coup, j'arrive à être plus, à avoir confiance en moi, même si c'est pour pas dire grand chose, en fait. Et donc, du coup,
c'est tellement résumé de l'humour.
ouais, c'est ce qu'il faut. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un truc de confiance, en fait. L'humour, on est d'accord que c'est, En fait, parce qu'il y a plein de gens qui te disent ah putain, t'es hyper marrant et tout, putain, tu vas réussir à faire quelque chose de bien, et donc tu te dis ah putain, je suis marrant. Et puis en fait, les premières fois que tu montes sur scène, les gens se marrent pas et tout, tu dis ah non, en fait, je suis pas marrant. Mais en fait, c'est vraiment un truc, tu deviens, plus t'as la confiance et plus tu maîtrises ta matière et tu maîtrises ton personnage, tu maîtrises ta façon de vouloir dire les choses. Et donc certainement que je suis plus en confiance aujourd'hui avec mon personnage, si on peut parler de personnage en tout cas. En tout cas, j'ai plus confiance en ce que j'ai à dire.
Et d'où elle vient la confiance ? Juste du temps ?
Probablement du fait qu'à un moment il y a suffisamment de gens qui te disent ah, putain, t'es vraiment marrant, et tu te dis ok, bon, je suis officiellement marrant.
Okay. T'as un petit badge et tout.
Ouais, ben en fait ouais, mais t'es obligé d'y croire, parce qu'en fait il y a plein de gens, en fait, quand tu regardes sur internet, qui disent ah, mais t'es pas marrant. Mais bon, en même temps, parce qu'en fait là, tu vois, quand je mets mes chroniques sur France Inter et tout, évidemment que je m'adresse au public de gens qui sont abonnés au site de France Inter, donc il y a plein d'auditeurs de France Inter qui me connaissent, qui m'apprécient et donc qui mettent des commentaires sympathiques. Mais si je faisais le même texte sur RMC et qu'il était posté sur le site de RMC, mais il y a plein de gens qui me détesteraient, je pense. Et donc en fait, je pense que c'est les auditeurs de France Inter qui me donnent la confiance. Tu vois, je me dis ah putain, c'est cool, je suis marrant pour eux. Mais j'ai fait des sketchs, tu vois, de mon spectacle, par exemple, de mon précédent spectacle, qui ont été postés sur le site de comédie, des sketchs dont j'étais très fier. Et je regardais tous les commentaires, je disais ah, putain, il y a quand même beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Je ne regarderai plus jamais les commentaires sous cette vidéo, de peur d'avoir le moral miné.
Et t'arrives à pas regarder?
Ouais, il y a des vidéos dont j'ai pris le parti de ne plus jamais regarder les commentaires sur Internet. Ouais.
Comment tu t'es retrouvé à être comédien ?
Comment je me suis retrouvé à être comédien ? Quand j'étais... donc avant d'être journaliste, j'ai été intermittent pendant 2 ans en qualité de comédien quand j'étais en Touraine. Parce que donc je faisais un peu de fac, donc d'anglais, pour pas contrarier mes parents. Mais j'y allais vraiment pas du tout. Et puis j'ai commencé, donc j'avais fait des clubs théâtre quand j'étais au lycée, tu vois, mais donc je savais que j'aimais bien faire rire les copains et tout ça. Et ensuite, quand j'étais à Tours, donc pour mes études, je me suis dit je vais m'inscrire au conservatoire. Et donc j'étais pris au conservatoire, qui était une classe de théâtre, mais là où la prof de théâtre m'a dit, elle m'a dit, il faut enlever toutes ces mimiques. Hein. Enfin, tu vois, elle était là, genre... Elle me dit, c'est beaucoup trop boulevard. Bon, ça, tu vois, je faisais des effets de voix, pas possible et tout. Je pensais que c'était drôle, tu vois. Et donc, elle m'a dit, oh, il faut faire du contre-emploi. Vous avez travaillé Britannicus. Et j'étais là, mais j'ai absolument aucune envie de travailler Britannicus. Et au même moment, je rencontre un mec qui monte une compagnie de café-théâtre à Tours, qui s'appelle Stanislas Hilleret, qui est un comédien brillant. Et donc, je découvre cette compagnie de café-théâtre et on s'éclate tous les deux, et avec une petite compagnie, une petite troupe dans un café-théâtre qui s'appelle Le Brin de Zing à Tours. Et on monte un spectacle en un an, en se faisant deux répétitions par semaine et tout. Et je me rends compte qu'en fait, je m'amuse beaucoup plus avec le café-théâtre, avec l'absurdité. On faisait une parodie des chiffres et des lettres.
Freddy Coup de Boule, c'est ça?
Alors, ça c'est arrivé après, en fait, Freddy Coup de Boule. En fait, donc faire du café-théâtre et un peu de conservatoire que j'ai très vite quitté m'a permis de rencontrer tout un tas de comédiens à Tours, et puis la Ligue d'improvisation de Touraine qui était semi-pro, donc qui donnait des cachets aux gens qui faisaient certains des matchs, et donc je suis rentré dans l'équipe semi-pro à ce moment-là et j'ai commencé à faire des cachets, donc à gagner de l'argent en faisant de l'impro, quoi. Donc j'étais là, c'est quand même hallucinant. Et ensuite j'ai été pris sur une tournée de théâtre. Alors là, on a joué le Père Goriot, donc c'était un peu plus classique, mais du coup j'étais payé pour faire une tournée entière et j'ai eu mon statut d'intermittent. Et je me suis barré à Paris à ce moment-là parce que je faisais de la radio, j'avais un fanzine de fan club, parce que j'ai créé le fan club d'un groupe de métal qui s'appelait Korn.
Oui, ben Korn, oui.
Quand j'avais 15 ans.
Comme si c'était un petit groupe.
Oui, mais parce que je suis tombé fanatique de ce groupe quand j'avais 15 ans, et donc j'ai créé le fan club. Et j'ai fait durer ce truc-là pendant 2-3 ans. Et ensuite, donc j'avais en parallèle un peu ma passion pour la comédie et pour le théâtre. Et puis à côté, en parallèle, ma passion pour la musique. Et puis du coup, je me retrouve à être embauché dans un magazine à Paris. Et au même moment, un pote à Tours me dit « Ouais, j'ai envie de créer un spectacle. » Et là, on a lancé un spectacle de rue qui s'est appelé Freddy Coup de Boule et qu'on a joué pendant des années, de 2000 jusqu'à 2016, en fait. Donc on l'a joué 600 fois en 16 ans. Et en fait... on l'a tellement joué, même jusqu'à 2005, année où j'ai arrêté d'être journaliste, qu'en arrêtant, je me suis dit, je fais assez de cachets pour être comédien à part entière, rien qu'avec ce spectacle. Donc j'ai arrêté la presse, et puis de là, j'ai écrit mon premier spectacle qui racontait mon histoire de fan de musique, en fait, qui devenait journaliste de musique.
Et aujourd'hui, dans le nouveau spectacle qui reprendra au plus vite à Paris, il y a la notion de un peu plus de message par rapport à Bon Chien Chien, d'essayer utiser le spectacle pour dire des choses qui tiennent à cœur. Pourquoi tu as décidé de quitter ce côté un peu on va juste passer un bon moment et maintenant c'est ok, je vais utiliser ce bon moment pour vous faire.
Alors, l'idée du spectacle, du nouveau spectacle, c'est quand même toujours que les gens passent un bon moment. Et du coup, et pareil, l'idée du message dont tu parles, c'est vraiment un truc qui me... J'y vais vraiment avec des pincettes, je marche sur des œufs avec cette idée de message, parce que l'idée de spectacle engagé me fait peur, et j'ai l'impression fait peur à tout le monde.
Mais t'as peur parce que t'as peur de la réaction des gens, ou t'as peur, toi, dans ta démarche, de dire des choses et puis de plus être d'accord ?
Non, je pense que j'ai peur que ça fasse peur aux gens. Le côté spectacle, genre il va parler de politique et tout, je parle pas du tout de politique, mais en fait je parle de, donc ça climate, ça parle même pas de réchauffement climatique, enfin si, ça en parle un peu quand même, évidemment ça parle de changement climatique, mais ça parle surtout de mon point, de ma sensibilité à moi et de comment je vis ces choses là moi je suis pas météorologie, je fais pas de projection sur les 50 ans, je lis juste des trucs scientifiques qui me racontent, qui confirment la façon que j'ai de ressentir ce réchauffement moi-même, c'est-à-dire qu'en fait les canicules me rendent chaque été, moi, me font paniquer, et en fait mais vraiment paniquer, et donc parce que je suis complètement phobique de la chaleur, et donc ce spectacle consiste à dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête, ces saunas là qui durent pendant un mois tous les étés, est-ce qu'on continue de faire comme si c'était normal, et est-ce qu'on continue de faire dire cette phrase débile que moi, ça me choque quand j'entends les gens dire « Mais l'homme, il s'est toujours adapté, il va continuer à s'adapter. » Mais je pense qu'à un moment, on va arriver aux limites de l'adaptation. Tu vois, je pense que c'est un truc que je dis dans le spectacle. Je suis sûr qu'il y a un dinosaure qui a dit ça à un autre dinosaure il y a 14 millions d'années en voyant arriver la météorite. Il disait « Putain, elle est grosse !» Et l'autre, il a dit « Mais t'inquiète, on va s'adapter. » Et je pense qu'à un moment, on va plus pouvoir s'adapter. Et donc déjà, moi, je commence à arriver à ma limite, quoi. Donc je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est une question que je pose un peu au mec qui dit, enfin tu vois, au mec qui continue de développer la voiture, la nanotechnologie, tu vois la transition écologique, qui pour moi est un terme un peu une imposture, parce qu'en fait tu vois, je peux pas imaginer que tout le monde veuille changer de téléphone tous les 3 ans et puis qu'on pense qu'on va continuer à faire comme tout va bien se passer. On va changer de téléphone, il va faire 60 degrés. Enfin, tu vois, je comprends pas réellement. J'ai peur de savoir comment ça va se passer dans 20 ans, en fait. Et donc, en fait, c'est un spectacle, en fait, où je me mets en face de mes peurs, tout simplement. Enfin, ouais, de ma phobie un peu de l'avenir et de comment tout ça va évoluer, quoi.
Tu l'as coécrit avec Navo, il a relu, il a un peu repéché.
En fait, je l'ai écrit avec ma compagne. Ma compagne Audrey Vernon m'a pas mal inspiré dans l'écriture de ce spectacle, parce qu'elle a écrit elle-même un spectacle qui s'appelle Billion Dollar Baby. Qui est sorti en livre, absolument. Aux éditions libres. Et qui, comme c'est ma compagne, évidemment, elle a beaucoup ses discours, ses lectures et tout ont beaucoup d'influence sur moi. Et donc je suis beaucoup moins renseigné qu'elle sur toutes ces questions-là, mais j'ai une façon à moi, avec ma sensibilité, de recevoir ces informations. Et donc ce spectacle, c'est ma façon à moi de gérer ces problèmes-là. Et elle a fait son spectacle avec sa façon à elle de gérer ces problèmes-là. Et évidemment, et donc je suis arrivé à la fin de l'été avec ce truc qu'on a écrit un peu à quatre mains avec Audrey. Et j'ai tout présenté à Navo, et Navo m'a aidé à mettre un sérieux coup de polish, tu vois, sur pas mal de trucs, en me disant ça enlève, ça on peut le développer et tout. Mais oui, Navo m'a énormément aidé à la fin. Ouais.
Mais du coup, ça devait être chaotique, vos sessions de travail.
Avec Navo, non, parce que je sais que lui et moi, parce que je suis venu de chez moi jusqu'à Paris pour bosser chez lui. Et quand je m'installais autour de sa petite table avec lui, je savais que si je commençais pas à parler de travail, c'est pas lui qui allait le faire. Donc juste avant un moment, faut qu'on s'y mette quand même, quoi. Donc, mais non, c'était assez studieux. Plus studieux que ni lui ni moi ne l'avons jamais été. Enfin, en tout cas, ni moi, en tout cas.
Comment tu l'écris? Parce que j'ai lu là dans des interviews que t'avais prévu de passer 6 mois dessus début 2020. Puis qu'il y a eu un petit contretemps de type Covid.
Disons qu'en fait, j'avais prévu de travailler les 6 premiers mois de 2020. J'avais prévu de tout refuser les 6 premiers mois de 2020 pour écrire ce spectacle. Et puis dès que le confinement arrive, ils nous disent à tous restez chez vous, travaillez, lisez, tu vois, comme disait Macron. Et en fait, j'étais là. En réalité, ça correspondait exactement à ce que j'avais décidé, c'est-à-dire il fallait que je reste chez moi. Mais il y a une partie en moi qui s'est dit ah non, mais dis donc, tu me donnes pas d'ordre, toi. Et donc j'étais là, je veux pas rester chez moi pour travailler parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi. Et donc du coup, j'ai différé l'écriture du spectacle. Je l'ai pas différé, mais j'ai eu du mal à m'y remettre parce qu'en fait, je terminais mon livre aussi en parallèle. Et du coup, je m'y suis remis vraiment sur l'été. Tout l'été, j'étais vraiment été à fond dessus. Et donc, j'ai vu Navo à la fin de l'été, en fait.
Mais du coup, t'avais quoi pendant le confinement? Donc, t'as terminé ton livre. T'as des enfants aussi, ouais, ça va prendre pas mal de temps. Et donc, t'as fait quoi pour niquer Macron?
Pendant le confinement?
Ouais.
Ben, j'ai été très, très oisif pendant le premier confinement. Enfin, il a duré 2 mois. Les 15 derniers jours, je me suis vraiment mis au livre, en fait, mais le premier mois et demi, j'étais dans mon jardin à tourner en rond, à regarder le ciel, et j'étais dans surtout, même les 15 premiers jours en particulier, j'étais dans un film de science-fiction dans ma tête, moi. Enfin, je pense que il y avait un changement de paradigme général. C'est la première fois que tout le monde était obligé de rester chez soi. Et on avait tellement jamais vécu une telle situation que moi, j'avais des impressions de science-fiction, mais presque physique, tu vois. J'étais là, on est dans un film fantastique. Tu vois, je sentais qu'on était dans un truc qui n'était jamais arrivé, complètement fou. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à travailler parce que j'étais là, j'étais dans l'aquabonisme. J'étais là, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas mourir d'une mutation du truc dans 6 mois? Donc, c'était encore plus comme, j'étais encore plus à me dire, mais ça sert à rien de travailler, de toute façon. Donc, c'est comme ça que j'ai, C'est comme ça que j'ai niqué Macron, j'ai fait des gyoza chez moi. Et
comment t'es sorti de cet état d'aquabonisme?
Ben, je sais pas si j'en suis réellement sorti, en fait, parce que tu vois, j'ai fait le spectacle. Là, en ce moment, je suis dans une phase où le spectacle est tellement repoussé que j'en suis à avoir l'inquiétude qu'il ait moins de sens ou qu'il devienne un peu obsolète. Dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand je vais le rejouer, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que le sens de toutes les choses et de tous les projets est tellement bousculé par la situation générale que, c'est marrant, tout à l'heure, on parlait d'intemporalité des blagues et tout. Je me dis, j'ai du mal à imaginer comment on puisse faire un spectacle que sur le couple. Tu vois, là, par exemple, en disant ah les petites galères de couple, tu vois, sans que ce spectacle n'ait été influencé par l'année qu'on vient de vivre, tu vois, ou alors tu racontes le couple en confinement, je sais pas, mais enfin tu vois, c'est tellement le confinement, la maladie, la peur de la, enfin tu vois, la peur, même les changements qu'on a dans le rapport physique, sociaux et tout ça, ça a tellement évolué ça qu'aujourd'hui je me dis quel sens, comment ça va transformer le sens de toutes les choses, des blagues qu'on va faire peut-être dans un an, des choses qu'on va se dire dans un an. Et quand je regarde un film, là je regardais un film de Claude Sauté hier, tu vois, sur Netflix, Vincent François, Paul et les autres, où maintenant ça me fait beaucoup ça, je me dis, je regarde des films où les gens s'embrassent et tout machin, et je me dis, mais pour mon fils qui a 4 ans et demi là, en admettant, évidemment, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais que cette situation reste comme ça longtemps, ils vont regarder les films, ils vont se dire, mais c'est quoi ce monde qu'il y avait avant, tu vois? Et donc, en fait, c'est ça, quand je dis que le sens des choses change, c'est là que je me dis, j'ai peur que le sens de mon spectacle dans 6 mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les préoccupations climatiques préoccupent beaucoup moins de gens. Ouais. Là, aujourd'hui, là, tu vois, on parle de vaccin, on parle d'accessibilité au vaccin, on parle de tout ça. Et donc, c'est pas mon inquiétude de me dire, c'est pas pour mon spectacle que j'ai peur, c'est plus pour le climat que j'ai peur, tu vois. Mais donc, du coup, je me dis, combien est-ce que le sens de mon spectacle va être affecté par la situation dans 6 mois, quoi.
Et du coup, t'envisages de faire quoi?
C'est bizarre parce qu'en fait, j'ai essayé de, avec ce spectacle, de donner un instantané le plus précis possible de ce qu'il y a en moi quand je l'ai écrit. Et quand je me dis qu'est-ce que je peux faire après ça, je suis vraiment dans un grand doute de nouveau. Je me dis, mais qu'est-ce que... Tu vois, je me vois pas refaire une comédie hyper légère, complètement anodine et tout. Enfin, tu vois, une comédie du monde d'avant, quoi, tu vois. Je... En fait, je sais pas. En fait, les mecs, les choses qui me font le plus marrer aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télé, en stand-up, en cinéma et tout, c'est quand les choses se confrontent le plus possible au monde actuel. Pour moi, en tout cas, c'est, tu vois, c'est quand ça parle de sujets vraiment qui sont dans les conversations, qui sont dans les dans l'actualité. Alors, ça veut pas dire parler d'hommes politiques et tout, mais ça quand ça parle de sujets qui bougent, de choses mouvantes, de choses qu'on, sur lesquelles on n'est pas d'accord et tout ça. Donc encore une fois, je sais pas comment tout ça va évoluer. J'espère que dans un an, il me restera pas que des blagues à faire sur les vaccins et sur le coronavirus et sur les pandémies et les confinements. Parce que là, pour le moment, j'ai quand même l'impression que c'est le sujet de beaucoup des choses qu'on fait, en fait. Enfin, tu vois, n'importe quel, si on fait une chronique sur un film qu'on a vu hier, ça va être, on va pas parler du film, c'est comment ça fait de regarder un film pendant un confinement. Mmh. Et tu vois, c'est comment on perçoit le sens de ce film est transformé à cause du fait qu'on est chez nous depuis 6 mois et qu'on regarde des gens qui sont pas masqués dans les films et qu'en fait, donc voilà, je suis un peu, autant on est vachement dans le doute et on ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer. Et ça rend encore plus compliqué de savoir les choses qui vont m'inspirer dans 6 mois, dans 1 an. Quoi. J'en suis vraiment là en ce moment. Je réfléchis à faire une émission de musique cet été sur France Inter, mm-hmm. pour couper complètement, tu vois, avec l'obligation d'être. De devoir parler de, là, je vais parler d'un truc qui me passionne, tu vois, la musique. Mmh. Donc, je vais pouvoir faire des blagues assez facilement là-dessus, je pense, et m'amuser avec ça. Mais parce que ça va être un truc un peu qui, de l'oxygène pour moi, de parler d'un autre sujet, de moins me préoccuper de ça. Parce que, en réalité, si je parle que des choses qui me font peur et tout, au bout d'un moment, c'est sans fin et c'est, voilà.
C'est quoi l'évolution de ton rapport au doute? Genre, comment t'étais avant vis-à-vis de ça? Comment t'es maintenant?
Je pense qu'en fait, c'est bizarre de dire ça, mais pour moi, le doute, c'est... c'est pas vrai, parce que le doute, ça évoque quand même quelque chose d'hésitant, de brinque-ballant, de on sait pas. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est le socle de tout. C'est-à-dire qu'en fait... c'est le socle... des décisions que je prends, des décisions que je mets beaucoup de temps à prendre, du coup, parce que des fois je me pose beaucoup trop de questions sur des trucs sur lesquels il faudrait que ma compagne me dit mais arrête, vas-y, fais-le, au lieu de te dire pourquoi faut que je le fasse, mais attends, quel est l'intérêt véritable de le faire. Et donc du coup faut que je me méfie aussi, parce que comme je suis quelqu'un de très paresseux, faut pas que je mette non plus que je mélange le doute et la paresse, parce que des fois j'invente des excuses de doute.
Ah ouais.
Pour justifier une espèce, enfin pour cacher la flemme, en fait, tu vois. Genre, attends, on va pas le faire tout de suite. Non, mais allez, lève-toi et bouge-toi maintenant et fais le truc, au lieu de faire croire parce que t'as des questionnements philosophiques sur le truc. Mais non, le doute, je pense qu'il est salutaire quand même, parce que moi les gens trop sur deux à la fois me fascinent et me font peur, enfin peuvent me faire peur. Mmh. Mais bon, par exemple, j'ai un de mes frères qui est quelqu'un d'hyper carré, tu vois, hyper déterminé, qui bosse et tout machin. Donc je l'admire énormément. En même temps, il y a énormément de sujets sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, mais il fait beaucoup plus de choses que moi dans sa vie, tu vois. Et donc, du coup, il doute beaucoup moins. Et donc, il se lève tôt le matin, il se couche tard le soir. Il fait plein de trucs tout le temps. Chaque minute est remplie de choses à faire. Et c'est enviable aussi, comme ça, quelque part, les gens qui se posent pas de questions. Mais moi, je m'en pose certainement beaucoup trop. En fait, je suis jamais sûr exactement de ce que je pense. J'essaie... certainement trop souvent de comprendre, ça fait hyper prétentieux de dire ça, mais j'essaie beaucoup de comprendre pourquoi je suis pas quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, pourquoi il est pas d'accord avec moi, au point que des fois je vais tout faire pour essayer de me ranger de son avis, pour essayer de comprendre son point de vue. C'est comme si, je vais pas dire que tout le monde a raison de penser ce qu'il pense. Mais je pars du principe que tout le monde a ses raisons de penser ce qu'il pense, en tout cas. Donc, tu vois, que ce soit un anarchiste de gauche, ou un patron de multinationale, ou un mec de Daesh, je pense que tous ces gens-là font ce qu'ils font parce qu'il croit qu'il faut qu'il le fasse. Et donc, alors mon point de vue à moi, c'est que je suis pas d'accord avec tous, mais je peux pas me cacher que s'ils le font, c'est par conviction. Et donc j'essaie de comprendre. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et j'essaie d'avancer là-dedans, mais du coup je perds beaucoup de temps quand même à essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font ou pensent ce qu'ils pensent. Et mais en même temps ça nourrit beaucoup, je pense. Enfin c'est comme ça que j'essaie de nourrir mon écriture. C'est-à-dire que quand j'écris moi, souvent quand je dis un truc ou je dis une blague, n'importe quoi, souvent elle est suivie de ce que j'imagine que les gens qui sont pas d'accord avec moi vont me répondre. Et donc du coup moi beaucoup de mes chroniques sont remplies de Je dis un truc. Alors vous allez me dire. Alors vous allez me dire. Oui, d'accord. Je comprends pourquoi vous pensez ça, mais je vais vous répondre ça parce que je veux essayer de. Voilà, je veux. Je pense que ouais. Je pense que le problème, c'est que on est trop nombreux à vouloir avoir raison. Et je pense que les gens, ils sont trop amoureux de ce sentiment qu'ils ont quand ils ont raison, quoi. Je pense que ça, il y a un vrai problème avec ça. En fait, on le voit. Alors les réseaux sociaux accentuent ce truc à mort. Mais l'incapacité qu'ont beaucoup de gens à reconnaître leur tort et tout, de dire ah ouais t'as raison, non c'était vraiment de la merde ce que j'ai dit, enfin je l'entends pas souvent, c'est un peu cliché comme discours de dire ça, mais je suis voilà, je pense que j'aimerais que les gens aiment moins avoir raison, j'aimerais qu'ils soient moins gagnés par ce sentiment de satisfaction qui est le leur quand ils ont le dernier mot. Parce que je pense que ça faciliterait beaucoup la communication et que chacun, en fait, quand les gens sont pas d'accord, c'est qu'en fait, ils sont pas d'accord sur la solution qu'ils veulent apporter pour le bien commun, en fait. Parce que quand on n'est pas d'accord sur des questions de société, c'est qu'en fait, on a une vision de la société qu'on imagine idéale pour tout le monde. Et donc, quand il y a deux visions qui s'opposent comme ça, les gens, j'ai l'impression, oublient trop souvent que c'est, qu'en fait, ils partagent une vision qui est celle d'un idéal pour tout le monde. Et donc, du coup, le but dans beaucoup de débats est d'avoir le dernier mot et de dire, ah, ben, je t'ai bien niqué, mon gars, ben ouais, relis un peu, relis les revistes et classiques. Enfin, tu vois, ou ces phrases comme ça. Et donc, voilà, je sais plus où j'en étais.
Toi, t'es amoureux de quel sentiment?
Amoureux de quel sentiment?
Ouais, ce que t'as dit, les gens qui sont amoureux du sentiment, de ce que tu ressens quand t'as raison. Toi, c'est quoi qui t'anime, qui te provoque un truc où tu dis putain, ça je veux le ressentir tout le temps.
Qu'est-ce que. Oh là, ça c'est une question, non? De quel sentiment ou de quelles sensations? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un par exemple de très casanier aujourd'hui. Donc de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui, on est tous très casaniers. Mais. Donc en fait, ayant des enfants maintenant, nécessairement, je suis très 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 famille plus que je l'ai jamais été avant. Je comprends. En fait, j'ai l'impression de comprendre cette envie de famille qu'avaient mes parents quand j'étais petit. Ah, on va être en famille et tout. Moi, j'ai envie d'aller voir mes copains, tu vois. Mmh. Et en fait, maintenant, je comprends ce truc de père de famille, en fait, hein, qui veut être près de ses enfants. Donc ça, c'est un truc de sensation. De quel sentiment je suis amoureux. En fait, je lutte. En fait, non, c'est, je sais pas que je suis amoureux d'un sentiment, c'est que je lutte moi-même pour ne pas être amoureux de ce sentiment d'être content d'avoir raison. Parce qu'en fait, je passe pas au travers de ce truc-là. Je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'aime bien avoir raison, mais je sais, tu vois, cette phrase horrible qui est là, ah, mais je te l'avais dit! Je te l'avais dit! Alors, cette phrase, par exemple, je te l'avais dit. Moi, j'étais là, je dis souvent, oui, mais je voulais voir moi-même. Tu vois, c'est pas parce que tu me l'avais dit, c'est pas parce que tu savais, tu croyais savoir. Tu vois, les circonstances sont pas toujours exactement les mêmes. Quand on me dit, tu vas tomber, attention, fais gaffe. Et je tombe, et quand quelqu'un me dit, ah, je te l'avais dit, mais je voulais essayer moi-même quand même. Donc, en fait, je crois que je suis pas amoureux d'un sentiment, mais par contre, je suis clairement en lutte contre ce sentiment de satisfaction, qui est celui qu'on a quand on a raison, en fait. C'est Schopenhauer qui a fait un livre qui s'appelle L'art de toujours avoir raison, je crois. Mais rien que l'idée qu'un mec ait eu envie d'écrire ce livre m'énerve. Et que ce livre serve de référence à tout le monde. Quand je vois ce livre dans la bibliothèque chez quelqu'un, ça m'énerve. Je suis là, mais qu'est-ce que t'as besoin d'avoir ce livre, d'avoir toujours raison?
Mais c'est un vrai bouquin qui parle de ça et de comment avoir
absolument
toujours raison.
Absolument, c'est comment. C'est un truc sur la rhétorique, en fait. C'est un livre sur la rhétorique qui explique comment les techniques, en fait, pour avoir raison ou pour donner tort à ton interlocuteur, en fait.
C'est Clément Viktorovitch.
Mais Viktorovitch cite très souvent exemple Schopenhauer. Mais parce que il connaît toutes les figures de style et tout, ouais. Clément Viktorovitch. Mais du coup, ce livre de Schopenhauer m'exaspère au plus haut point. Enfin, l'idée qu'un mec ait eu l'idée de faire un livre qui s'appelle L'art de toujours avoir raison, j'ai envie de lui mettre des claques à Schopenhauer, de lui tirer les cheveux.
Ce sera évidemment le titre du podcast. Comment tu bosses? Comment tu travailles?
Je procrastine énormément. J'attends toujours le dernier moment. J'ai toujours eu du mal à m'avancer. Et d'ailleurs, en fait, si j'essaie de m'avancer, ça ne sert à rien parce que mes meilleures idées ne me viennent qu'au dernier moment, en fait. Donc, je sais que. Ou alors, non, en fait, je mens un peu en disant ça parce que, par exemple, enfin, ça dépend de ce sur quoi je travaille. Mais en fait, si je prends l'exemple de. Enfin, le spectacle, par exemple, typiquement, a été terminé cet été, mais il a été écrit à 80% cet été, quand même. Mais en fait, parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse mariner, enfin, tu vois, le plus longtemps possible, tout ce qu'il y avait en moi, de choses dont j'avais parlé à la radio, de choses que j'avais notées et tout ça. Et puis, je voulais attendre le dernier moment pour sculpter un peu mon truc. Mais à la radio, par exemple, ça dépend. Je me rends compte que plus tôt dans la semaine, je sais de quoi je vais vouloir parler. Et si plus tôt j'ai mon sujet, mieux va être la chronique en général, je me rends compte. Parce que plus tôt je sais de quoi je vais vouloir parler, plus je vais pouvoir me créer des petites fenêtres de temps pour travailler dessus. Et plus j'arrive à penser à des moments différents, à un truc sur lequel je vais écrire, plus j'arrive à avoir des façons de penser différentes dessus, des idées nouvelles qui vont venir. Mais si j'essaie de passer par contre 3 heures au dernier moment sur un truc, en n'y ayant pas du tout pensé avant, je vais avoir moins d'idées nécessairement. Donc plus je pense de fois différentes à un sujet, plus je vais avoir de bonnes idées, je pense. Mais il n'y a pas de façon, en fait. Mais je me rends compte que j'aime bien décaler. Je rédige au tout dernier moment, en tout cas, mes idées. Je prends des notes et puis en général, je rédige le matin même de mon intervention à la radio, en l'occurrence.
Comment tu sais ce qui va où? Genre, quand t'as une idée, tu dis ça, c'est une chronique, ça, c'est dans le spectacle?
En général, quand c'est sur un truc d'actualité qui s'est passé dans la semaine, c'est directement pour une chronique. Parce qu'en fait, pour moi, un spectacle, c'est une chronique qui doit durer 4 ans, en fait. C'est une chronique qui doit avoir du sens pendant 4 ans. Donc, en fait, c'est une chronique qui doit prendre de la hauteur sur...
C'est le boss final des chroniques.
Un petit peu, ouais. Ouais, c'est une chronique qui doit durer. C'est une chronique qui doit avoir du sens pendant tout le temps que tu vas la jouer, en fait. Il y a des chroniques, si tu remates des chroniques de gens, tu vois, que ce soit moi ou un autre, mais des chroniques qui ont été faites il y a 2 ans, des fois ça parle d'un sujet précis, d'un truc qui est arrivé dans la semaine qu'on a tous oublié. Tu vois, quand je faisais des trucs quotidiennement avec Mathieu Madénian, on peut parler de trucs, j'ai complètement oublié de quoi on parlait, parce que c'était un jour où Édouard Philippe, il avait dit un truc, je sais plus ce qu'il avait dit, tu vois. Mais typiquement la bamboche, tu vois, c'était voilà, c'est une petite phrase qui a été sortie par un préfet qui l'a dit, ça a fait le buzz un peu pendant une semaine, j'ai fait ma chronique dessus, ça a bien marché.
Probablement dans 4 ans, les gens ils vont penser que le mot bamboche ça a été inventé par toi.
Ouais, peut-être, mais je sais que bamboche, en fait, ça a tellement fait parler que si j'en parlais dans mon spectacle de la bamboche, forcément les gens ils seraient contents, je pense, et peut-être j'en parlerai d'ailleurs parce que j'avais pas prévu de le faire. Mais non, mais des fois j'ai des bonnes idées pour la radio que je m'interdis pas de remettre dans le spectacle aussi, tu vois, des trucs. Donc voilà, je sais pas exactement quand j'ai une idée si ça va pour une chronique ou un spectacle. Chronique spectacle, c'est un peu les bonnes idées que j'ai, comme c'est moi qui parle, comme c'est mon personnage qui parle à la radio ou sur scène. Je pense que les idées que j'ai pour quand j'ai une bonne idée, elle peut aller dans les deux. Après, quand t'as une idée de dire, quand il t'arrive un truc dans la vie et puis que tu te dis, oh putain, ça aurait pu se passer comme ça, oh merde, si ça avait été ça, putain, ça, tu te dis, ah tiens, il y aura peut-être une histoire à raconter là-dessus, ou tu te dis, tiens, je pourrais faire un court-métrage là-dessus, comme on sait, les gens me connaissent pour mes nombreux courts-métrages. Non, je rigole parce que ça me fait marrer, parce que l'autre jour, je rangeais mes livres chez moi et en fait, j'étais là, mais comparé au nombre de films que j'ai écrits, qui est 0, est-ce que je suis pas quand même quelqu'un qui a beaucoup de livres sur l'écriture de scénario? C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que j'ai au moins 6 livres sur l'écriture de scénario et que j'ai regardé et tout, en me disant, oh, putain, je vais le faire ce scénario un jour et tout. Et en fait, je suis là, non, j'ai essayé plusieurs fois de faire des scénarios, 2-3 fois, 4 fois, et puis j'arrive jamais à aller au bout du truc, quoi, tu vois, au bout d'une demi-heure. Non, parce que je sais pas, j'ai...
Tu vas direct au long.
Bah ouais, moi, le long.
T'es un bonhomme.
Sais, moi, je suis un gars du long, moi. Tu sais, je viens du long à la base, moi. Donc, non, mais.
Je pensais que tu venais du hip-hop.
Non, non, ouais, je viens et du hip-hop et du long métrage, en fait. Pourquoi pas un court métrage? Mais en fait, là, peut-être, il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est marrant parce qu'avec le nom prêt sur WhatsApp, on parlait de ça et on se dit, ah, putain, il y a peut-être un court métrage à faire. Et on s'est dit, tiens, on va peut-être faire un court métrage, mais, mieux vaut faire un petit court métrage cool qu'un projet qu'on va pas terminer de long métrage, quoi. Mais non, ça fait marrer parce que je te dis ça parce que je reviens à la question que tu me disais, oui, ça m'est arrivé d'avoir des idées, de me dire, ouais, putain, il y a une idée de film, là. Et donc, je la gratte un peu, puis au bout de deux paragraphes, je suis là, ouais, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce personnage, après? Ah, je verrai le mois prochain. Et puis, en fait, voilà, je laisse complètement tomber le truc, quoi.
Pourquoi ça t'intéresserait de faire des films?
Uniquement aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de films, hein. J'ai fait quelques apparitions, j'ai fait quelques trucs dans lesquels je suis hyper fier d'être.
Genre,
un film que j'ai fait cette année qui s'appelle Claire Andrieux, qui est un téléfilm Arte, sur Arte, absolument, qui a eu des retours incroyables et quand je l'ai vu en avant-première, j'ai un super rôle dedans, j'ai un gros rôle dedans.
C'est très premier degré comme truc.
Ah, c'est pas comédie du tout. Ouais. Enfin, c'est pas comédie, ouais, c'est très premier degré, très réaliste. Mais filmé hyper pudiquement, alors que ça parle de sujets un peu pas comiques du tout. Mais donc j'ai vu ce film, j'étais, et je te jure, et je ne me gênais pas en voyant le film. J'étais là, putain, mais je joue là-dedans. Hein. Putain, mais c'est cool ça, mon gars. Disons, ça va être bien dans ma filmographie, ça. Et donc maintenant, en fait, en réalité, je me dis, faut arrêter de fantasmer sur le cinéma. Et je me dis, quitte à en faire moins, j'aime mieux en faire bien, en fait, tu vois. Donc, j'aime mieux être fier de trucs dans lesquels, parce que des fois, on me propose des trucs. On me propose pas des trucs tous les quatre matins, mais ça m'arrive parfois de refuser des trucs qu'on me propose parce que vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, maintenant, je me dis, ça m'intéresserait de faire du cinéma que pour faire le film que j'ai pas encore écrit mais que j'ai envie d'écrire et qui me ressemble, et que j'espère arriver à terminer, enfin tu vois, ou parce que on propose des super histoires comme le cas de Claire Andrieux et que je me dis j'ai un truc super à défendre, quoi. Mais voilà, je te dis là, même pour moi le sens du cinéma change aujourd'hui, enfin le sens du divertissement change aujourd'hui de toute façon, enfin tu vois, j'ai l'impression que le sens de tout est en train de changer. Les musiciens qui font de la musique mais qui peuvent plus faire de concerts, qui passent leur temps à enregistrer dans les studios, tu vois, les comédiens de théâtre qui peuvent pas monter sur scène, le cinéma qui est embouteillé parce qu'il y a un an qu'il y a des films qui attendent pour sortir. Donc quel sens ça a aujourd'hui de commencer à écrire un film comme on commençait à écrire un film il y a 10 ans, tu vois? Pour moi c'est dur de donc il faut que ça ait encore plus de sens, quitte à ce que ce soit peut-être un film qui sera moins vu ou pas vu que sur Netflix, ou enfin tu vois, parce que j'ai un peu peur de ça quand même, de ne plus avoir des fictions à regarder que sur Netflix ou sur OCS ou sur ma télé, parce que avant j'adorais le cinéma, puis maintenant j'ai l'impression que le cinéma c'est genre le menu Netflix, quoi. Donc enfin c'est une des images que je vois le plus souvent dans ma vie quand même, c'est le menu Netflix, et en fait je passe des heures devant à me dire qu'est-ce que je vais regarder, et puis au bout d'une heure en fait je mets la télé finalement et donc et je m'endors devant la télé, donc voilà, le cinéma que j'aimerais faire c'est pas un cinéma de quantité en tout cas, mais de plutôt de qualité. J'aime mieux faire, si je dois plus faire qu'un seul truc, j'aimerais que ce soit un truc dont je sois hyper fier en tout cas.
Et là, avec des rôles comme ça qui sont plus sérieux et tout, t'as réussi directement à aller vers ça? Ou est-ce qu'au début, tu t'es dit, mais ça va être trop bizarre, les gens ont l'habitude de m'entendre faire des blagues, et là, ça va être chelou?
Non, parce qu'en fait, le réalisateur, en l'occurrence, Olivier Jahan, là, sur le film Claire Andrieux, il m'a mis très à l'aise avec le fait que il m'a fait enlever plein d'artifices un peu comiques que j'ai essayé d'amener des touches un peu comique sur certaines scènes et tout, et il me disait non, enlève, c'est pas la peine. Et en fait, la poésie du film vient du fait qu'il y a rien, en fait. C'est juste deux personnes qui tombent amoureuses et qui ont du mal à s'approcher l'une l'autre, en fait. Donc, le film raconte ça avec différents rebondissements, mais, Et donc du coup, et le film est beau comme ça. Et donc en voyant, quand j'ai vu le film, je me suis dit mais ouais, en fait, je peux apparemment je peux jouer quelque chose sans que ce soit drôle. Et puis en réalité, moi au cinéma aujourd'hui, c'est pas forcément la comédie qui m'intéresse le plus. Enfin si, je m'intéresse beaucoup à la comédie. Le problème que j'ai, c'est qu'elle me fait pas suffisamment éclater de rire à mon goût. Mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'on écrit aussi. Mmh. Donc je m'intéresse vachement à ça, mais je suis frustré qu'elle me fasse pas autant éclater de rire que j'aimerais en fait. Là où j'éclate de rire le plus souvent dans ma vie, c'est quand je suis avec mes amis. C'est pas quand je suis, c'est pas. Si je vais voir des spectacles comiques, même de gens que je trouve brillants et tout, ça veut pas dire que je vais être à me taper les genoux de rire comme ça pendant une heure, mais je peux trouver ça brillant quand même sans éclater de rire. Donc du coup, la comédie, c'est pas... La comédie, c'est ce dans quoi je me sens le plus à l'aise quand même. Mais aujourd'hui, je sais pas ce que j'aime le plus regarder forcément, en tout cas.
Qu'est-ce qui te fait rire ?
Qu'est-ce qui me fait rire ? La mauvaise foi, la mauvaise foi, enfin, en fait, elle me fait rire, mais elle me fait peur aussi, parce que la mauvaise foi, finalement, elle va presque prendre du pouvoir politique. Et en fait, si un jour des gens qui, à la base, ont une mauvaise foi, qui, à la base, me faisaient rire, deviennent, passent au pouvoir ou des choses comme ça, on va moins rire quand même, je pense. Mais, ouais, mais en fait, tout à l'heure, je parlais des gens qui savent pas reconnaître leurs torts et tout ça, mais je pense que des gens butés, des gens qui doutent pas. Mmh. Après, ça, c'est un truc dans la vie qui me fait rire ou qui m'amuse, parce que j'ai l'impression de regarder ça un peu comme pas comme un anthropologue, mais je regarde ça comme quelqu'un qui doute pas, quelqu'un qui est sûr de lui, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est des gens que je regarde un peu comme un sociologue, un peu. Enfin, tu vois, où, en me disant, waouh, comment il fait? Et je l'observe en me disant, mais c'est des gens qui m'inspirent pour mes blagues, en fait, parce que je trouve ça drôle quelque part, des gens qui sont hyper sûrs d'eux et tout. Sinon, qu'est-ce qui me fait rire après, tu parles en artiste
tout,
ou?
Ou, que ce soit des artistes ou que ce soit, ouais, des choses comme la mauvaise foi.
Des artistes, il y en a plein, en fait. En fait, tu vois, qui me font éclater de rire, il y en a pas tant que ça, mais que je trouve brillants. Des gens que je trouve très très bons, intelligents. Il y en a de plus en plus, en tout cas en France, je trouve, en francophone. Il y en a vraiment de plus en plus, parce que tu m'aurais demandé il y a 10 ans, qu'est-ce qui te fait rire en artiste français et tout, tu vois, j'aurais du mal à t'en dire beaucoup. Aujourd'hui, je trouve que certainement sous l'influence anglo-saxonne, parce qu'il y a plein de... On voit plus de stand-up américain et anglais et tout. Et puis on a un peu appris tous, enfin il y en a plein qui ont appris comme ça à faire du stand-up en regardant comment faisaient les Anglais ou les Américains, et il y en a plein qui en font très très bien. Donc en fait il y a plein de gens que je trouve brillants dans ce métier-là. Sinon, qu'est-ce qui me fait rire après les blagues de caca, ça me fait rire, ça me fait
ça
énormément
toujours,
rire.
Hein,
ouais. Non, ouais, mais ouais. en fait voilà, c'est ça ma réponse, les blagues de caca.
C'est quoi là, le truc que tu aimerais accomplir cette année?
C'est une bonne question, parce qu'en fait, ça me fait me dire qu'il faut que j'accomplisse quelque chose.
C'est-à-dire qu'en fait, désolé d'avoir dit que tu devais accomplir quelque chose.
Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense réellement que finalement, il faut que je m'améliore. Alors, je parle pas de mon métier et tout, enfin, bien que si, il faut que je continue de m'améliorer, tu vois, dans mon métier. Mais je veux dire aussi... essayer d'apprendre, en fait, c'est-à-dire que essayer d'apprendre à faire des choses sur lesquelles je croyais depuis longtemps que c'était pas grave d'avoir baissé les bras, c'est-à-dire qu'en fait je m'étais toujours dit il faut que j'apprenne soit à conduire, soit à parler espagnol, ou je lise des livres que j'ai pas lus. En fait, j'ai envie de progresser, en fait, j'ai envie de d'être plus curieux, en fait. J'ai envie d'être plus curieux, parce que par exemple ce confinement m'a un peu enfermé, le premier notamment, m'a un peu enfermé. C'est un peu comme si j'avais boudé contre le monde, je me dis, oh, de la merde, je reste chez moi, je fais rien. Et donc, du coup, je vois, j'ai rien à foutre, je fais rien. Et du coup, je me dis, je peux pas rester comme ça tout le temps, surtout avec des enfants, quoi, tu vois, parce que il faut que je en fait, ce qui me motive.
Ils vont pas te conduire partout toute ta vie, Thomas.
Ouais, c'est ça. Ouais, puis en fait, je me dis, quel père je vais être, tu vois, quand mon fils aura 10 ans, que tu vois, ce sera encore le père de ses copains qui devront nous ramener à la maison, parce que, non, parce que papa, il conduit pas, il va être obligé de dire ça à ses copains. Et je me dis, non, en fait, non, donc oui, quand même, je suis en train de me dire qu'il faut quand même que je sois plus curieux et que je progresse dans plein de choses, en fait. Et pas baisser les bras, en fait. Ça paraît idiot, mais je trouve tellement de raisons de baisser les bras et de désespérer que je pense réellement qu'en essayant de progresser, d'être plus curieux, de continuer à voir le bon côté des choses, je pense que notre salut, il passe par là, quand même, quoi. Et donc, essayer de voir les choses positives, de les chercher et de réussir à les trouver où qu'elles se cachent.
Merci Thomas.
Merci Fanny.
Waouh. J'espère que c'était pas trop confus, hein, quand même. Je sais pas.
Non, je pense
non.
Pas
non. Ok, c'est gentil parce que
j'étais bourré.
Pas du tout.
Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans la description, je note tous les liens où retrouver Thomas VDB ainsi que le site de réservation pour son nouveau spectacle Thomas VDB s'acclimate, qui sera notamment joué à l'Européen à Paris. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast via votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, c'est dispo partout. Et il y a plus de 30 épisodes en ligne avec Aymeric Lomprey, Marina Rollman, Navo, Adrien Méniel, Eva Bester, Lou Doyon et plein d'autres. Et si vraiment ça vous plaît, eh bien vous pouvez soutenir Les gens qui doutent via Patreon. C'est une plateforme qui permet de faire un don mensuel de la somme de votre choix. Et cet argent, bah moi, je l'utilise pour payer les frais relatifs à la production de l'émission et aussi, évidemment, pour acheter de la drogue en très grande quantité. Ce qui aide vachement aussi, c'est quand vous partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et que vous lâchez des étoiles, des commentaires et tout sur iTunes, sur YouTube. C'est hyper utile pour le référencement. Prochain épisode dans 2 semaines, comme toujours. D'ici là, on se croise sur Facebook, Twitter, Instagram. Il suffit de taper Fanny Ruet pour me trouver. Bisous. Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par l'excellent Maxime Wathieu.